Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Claude Ferret, on va continuer le cheminement de Léon Tolstoï dans cette Russie. Le mois dernier on était sur le Caucase et cette fois-ci on va se diriger vers l'Europe. Mais avant tu voulais donner une précision par rapport à une date que tu as donnée le mois dernier.
Bonjour. Oui, la fois dernière, j'ai fait quand même une grossière erreur parce que quand je vous ai fait entendre Les Bateliers de la Volga par Chaliapine, j'ai dit qu'il était mort en 1830. Mais bien évidemment, vous aurez rectifié, c'est en 1930. Et cette merveilleuse chanson que Chaliapine chantait, il l'avait enregistrée en 1928 et non en 1828. Moi, je reste vraiment très attaché au 19e siècle.
C'est vrai qu'on aurait eu du mal à l'enregistrer à cette époque-là, en 1800.
C'est vrai. Voilà, donc cette fois-ci, dans notre quatrième émission, comme je vous l'ai dit la dernière fois, Tolstoï a demandé sa mise à la retraite et il est revenu à Saint-Pétersbourg, après le Caucase. Et il n'a pas eu tout de suite la retraite définitive. Il a été à Saint-Pétersbourg, il est resté une année à vivre la grande vie, à prendre contact avec les milieux intellectuels, avec toute l'intelligentsia qui se trouvait à Saint-Pétersbourg à cette époque-là. Et il va voir ses éditeurs, enfin voilà, il reprend contact avec le monde. Il a vécu 5 ans, 4 ans et demi dans ce Caucase en guerre, donc il est un peu étourdi et il faut qu'il retrouve un peu le contact avec la vie civile, quoi. Et il y a son grand ami Tourguenieff, hein, qui va devenir un grand ami. Tourguenieff, comme vous le savez, le grand écrivain aussi de la terre russe, propriétaire comme Tolstoï avec Dessert, qui a beaucoup œuvré pour la libération des serfs, a accueilli, comme je l'ai dit la dernière fois, tous les écrits de Tolstoï. Donc il habite chez lui et Tourguenieff lui a dit « Mais Lev Nikolaïevitch, vous irez loin avec votre force de frappe d'écrit comme ça hein. ». Donc, Tolstoï, pendant cette année, il vient dans son domaine, il vient à Yasnaya Polyana, il vient à Moscou, il fait des séjours sur sa propriété, il va chasser, il continue toujours à écrire, à lire, évidemment. Puis il s'occupe de ses terres, de ses serres. Comme je l'ai dit, on est très étonné de voir à quel point Tolstoï reste toujours très, très attaché à son domaine. Alors évidemment, il fréquente encore il a fréquenté, comme je l'ai dit, une jeune cosaque au Caucase, ça n'a pas marché. Et il est amoureux d'une certaine Valérie Arseniev, une jeune fille de la bonne famille, tout près de chez lui. Et il ne sait pas ce qu'il va faire avec cet amour-là. Donc voilà. Je le redis quand même, Tolstoï aime la nature, c'est évident, sa stabilité, il la trouve dans cette terre natale, c'est son havre de paix avec ses paysans, avec sa terre, ses horizons infinis autour de lui. Il dira souvent que ça a été l'origine de bien de ses aspirations littéraires, toute cette terre autour. Mais voilà, comme au bout d'une année, malgré qu'il s'occupe de son domaine, ça lui prend pas mal tout ça quand même, hein, ses écrits, Saint-Pétersbourg, la vie mondaine. Et il décide de partir en Europe. Là, nous allons partir en Europe avec Tolstoï. On est en 1857, hein, le 8 avril 1857. Tolstoï décide de partir pour l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Ben, tous les aristocrates de cette époque qui s'inspirent des idées nouvelles de l'Europe, où le progrès est en plein essor, veulent aller à la source, enfin rencontrer les gens qui incarnent toutes ces idées nouvelles, quoi, tous ces rapports sociaux autres. Et en Europe, on respire quand même, à cette époque, même si c'est en 1857, on respire davantage que en Russie. Comme je fais un petit clin d'œil à l'histoire, en France, on respire mieux qu'en Tunisie en ce moment. Voilà. Donc, le 8 septembre 1957, Tolstoï s'en va directement en Europe. Il passe par l'Allemagne, parce que l'Allemagne est vraiment le point important pour tous les aristocrates de cette époque-là. On est très intéressé à l'Allemagne. Et 10 jours après... 10 jours après seulement, je suis étonné, en train, il y a déjà du train hein, qui circule. Il est à Paris. Il est à Paris. Et là, il va rester 2 mois à Paris. 2 grands mois où Tolstoï va être très, très, très actif. Il est presque tous les jours avec Tourguenieff. Tourguenieff est arrivé à Paris. On verra plus tard que ce Tourguenieff a habité pratiquement tout le temps à Paris. Qu'il l'avait rencontré à Saint-Pétersbourg. Et là, ils sont énormément ensemble. Et lorsqu'on lit les journaux et carnets de Tolstoï, parce que non seulement il continue à écrire, Tolstoï, les Cosaques, il continue, les Cosaques ne sont pas terminés, donc il doit, ça lui tient à cœur, ça, il va mettre 2-3 ans, 3-4 ans à terminer les Cosaques. Il les réécrit sous différentes façons. Et à Paris, il visite énormément de choses. C'est incroyable. Moi, je suis étonné quand je lis son journal intime, le nombre de relations russes que Tolstoï rencontre à Paris. Beaucoup de riches, bien sûr, évidemment, qui sont là. Des artistes qui vivent à la capitale française. Beaucoup ont fui le régime des tsars pour trouver, comme je viens de dire, davantage de liberté. Tolstoï va au théâtre, il perfectionne son anglais, prend des cours d'italien, il écrit. Il suit des cours à la Sorbonne, il va au Collège de France, il va à la Bourse, il veut prendre contact avec tout ce qu'il peut, quoi. Il va au club des poètes populistes, le mot populiste n'a rien à voir avec le mot d'aujourd'hui, hein. Et puis il visite tout ce qu'il peut sur Paris. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il a été même sur le tombeau de Napoléon, et il dira « Je me demande vraiment pourquoi ». On vénère un tel tyran.
Il n'était pas français.
Il n'était pas français. Et comme on verra dans la prochaine émission avec Guerre et Paix, Tolstoï a fait quand même un tableau très sombre de Napoléon qui vient ravager la Russie, quoi. Voilà, donc il ne faut pas oublier de dire que malgré ces voyages que Tolstoï fait, je suis toujours étonné, il écrit beaucoup. Il écrit son journal quotidien et il travaille encore à ses nouvelles. Il va continuer à écrire cette belle nouvelle qu'on va parler après, Albert. Et donc... il dit une fois, dans son travail, comme je le redis, parce que c'est vraiment les Cosaques, c'est merveilleux, il l'a travaillé peut-être 10 fois, les Cosaques. Il dit dans cette nouvelle que c'est vraiment comme une tradition biblique, tellement qu'il est vraiment attaché à faire passer l'essence même de la vie avec tout ça. Il écrit une belle nouvelle aussi, qui s'appelle Poulikouchka, que vous pourrez lire aussi. C'est l'histoire d'un valet, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de Poulikouchka. Alors, il dira, au bout de ces 2 mois très actifs à Paris, il dira, le charme que je trouve... Paris, le principal charme de Paris, c'est le sentiment de liberté sociale, qu'il dira. Bien sûr, les rapports nouveaux, la liberté pour Tolstoï, c'est très important, lui qui la cherche par tous les moyens. Et alors donc, comme il est quand même très choqué par ce capitalisme bourgeois qui est naissant à Paris. Lui, pour lui, Tolstoï, l'Europe, la France, c'est le pays des valeurs sociales, de l'égalité, tout ça. Mais sur le papier, oui, mais pas complètement en réalité, tu comprends ? Et donc, il a assisté, comme il veut assister à tout. Il est allé à la place de Grève une fois pour assister à une exécution capitale, la guillotine, ça existait. Et Tolstoï, il a vraiment, vraiment été choqué. il a été par ce spectacle de la guillotine. Et quand il a vu la tête tomber, il a dit non, mais c'est pas possible. Et cet spectacle va le poursuivre très, très, très longtemps. Très longtemps. Et il écrira à la suite de ça, il dit, mais la loi humaine est vraiment une ineptie, quoi.
On peut préciser qu'en Russie, quand même, on les fusillait, je crois, c'est ça ?
On les fusillait, bon. Évidemment. Oui, on les fusillait, martyrisé. Mais tu vois, ils pensaient quand même que la France avait évolué avec la Révolution française. Ils se rendent compte, Tolstoï, qu'il y a bien des idées nouvelles qui circulent, et c'est vrai, mais on fait tomber des têtes encore, malgré que la Révolution française soit passée par là, en 1857. Hein. Donc là, il est un peu dégoûté, deux mois à Paris, et il quitte Paris subitement. Il s'en va à Genève. Il s'en va à Genève, au pays de son grand ami Rousseau. Alors là, c'est très intéressant parce que j'ai observé son trajet. De Paris, il y a quand même des trains. C'est tout le début des trains, jusqu'à Ambérieu. De Paris jusqu'à Ambérieu. Et ensuite, il n'y a plus de train. Il prend une diligence jusqu'à Genève. Alors il arrive à Genève, il découvre Genève, où il va y rester quand même, là encore, pratiquement 3 mois. Il va voyager énormément dans toute la Suisse, mais il va surtout séjourner Genève autour du lac. Il fera même un voyage jusqu'à Turin. Alors là, pareil, je suis étonné de voir à quel point Tolstoï connaît des adresses de gens extrêmement aisés qui sont en villégiature autour du lac. Lac Léman, des princesses, des comtes, des riches propriétaires terriens, des artistes, beaucoup d'artistes, des musiciens, écrivains, des militaires de haut rang qui viennent en retraite, là, d'accord. Voilà, donc, et il rencontre à Genève une cousine qui a une quinzaine d'années de plus que lui, on en parlera plus tard, Alexandrine Tolstoï, qui deviendra une fidèle amie tout le reste de sa vie et qui deviendra surtout demoiselle d'honneur à la cour de Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc, quand il est à Genève, il continue quand même. Alors, c'est intéressant. Il s'intéresse à ses affaires. Il a son intendant qui lui écrit pour savoir comment ça se passe. Il ne perd pas le fil, le contact avec son domaine. Et il est quand même question d'émanciper les serfs. Alexandre II, qui est au pouvoir depuis 1855, a lancé des petits appels qu'il faudra peut-être passer à l'émancipation des serfs. Et comme je l'ai dit déjà, Tolstoï est très intéressé à tout cela. Alors il continue à lire. Si, je ne peux pas faire le... C'est impressionnant le nombre de livres que Tolstoï lit. Il lira un livre par jour. Il lit les lois suisses, il étudie l'histoire de la Révolution française. Voilà. Mais alors, là où il y a un événement qui va le marquer énormément, lors de son voyage sur le lac de Lucerne, au nord de la Suisse, il est de passage dans un super, super pension de famille, hôtel, le Schweizerhof, à Lucerne. Et là, Tolstoï s'arrête 2 semaines dans ce super hôtel et il va vivre une expérience très forte, très très forte. Et il va écrire de suite une fameuse nouvelle qui va s'appeler Lucerne. Alors Tolstoï est pensionnaire dans cet hôtel, un hôtel de choix parmi les riches. Hein, et il y a un pauvre mendiant qui va jouer de la guitare au pied. Au bas du balcon de ce fameux Schweizerhof. Si vous regardez sur Internet, encore aujourd'hui, le Schweizerhof est un des plus célèbres hôtels suisses où tous les plus riches aristocrates d'Angleterre, de France, partout, venaient en vacances. Quoi. Et pourquoi Tolstoï est très touché de cela? Parce que ce jeune mendiant un peu guitariste qui va jouer devant le Schweizerhof. Alors c'est une histoire absolument vraie parce que il dira à Tolstoï le 7 juillet 1857 à Lucerne devant le Schweizerhof, habité par des gens les plus riches du monde, un pauvre chanteur ambulant a chanté pendant une demi-heure en jouant sur sa guitare. Une centaine de personnes sur le balcon l'ont écouté. Par 3 fois, le chanteur pria qu'on lui donnât quelque chose, mais nul ne mit la main à la poche, et nombreux furent ceux qui le tournèrent en dérision. Cette nouvelle a été très très difficile à éditée parce qu'elle était tellement critique sur la société de cette époque. Pourquoi, dit Tolstoï, ce fait humain, impossible en n'importe quel village d'Allemagne, de France ou d'Italie, est-il possible ici où la civilisation, la liberté et l'égalité arrivent à leur point culminant et où s'assemblent les touristes les plus cultivés des nations, les plus civilisés et les plus riches? Et là, alors, je vais vous raconter la petite anecdote, c'est que Tolstoï est fou, furieux, il saute du balcon, il saute de sa chambre et il va chercher dans la rue le pauvre guitariste qui part les mains dans les poches avec sa guitare, quoi, et déçu que c'est riche, il a donné tout son âme, tout son cœur. Et Tolstoï va lui parler, le pauvre guitariste demande ce que ce aristocrate veut de lui, et il l'invite. Tolstoï dit, je vous invite à boire un coup d'un meilleur vin au Schweizerhof. Et oui, mais quand il rentre là, le gars est tout délabré, il sent mauvais, tout ça. Et Tolstoï demande une super bouteille de vin dans la salle la plus chic du Schweizerhof. Il sait ce qu'il fait, il veut faire un coup, quoi. Et là, manque de peau, les valets, les laquais du Schweizerhof interdisent à Tolstoï et aux mendiants d'aller dans le salon. Alors, il faut connaître Tolstoï. Il arrive de la guerre de Caucase, il ne se laisse pas faire. Il est prêt, mais il a crié, il a hurlé avec quand même de la décence, mais il a tapé les poings sur la table en disant « Non, cet homme, vous me saluez bien bas quand je rentre, et lui, vous l'ignorez, vous ne voulez pas que je prenne un verre, c'est moi qui paye. Vous nous mettez dans la salle la plus chic du Schweizerhof. » Et Tolstoï a été à deux doigts. J'aime beaucoup cette histoire. Bah, il ne l'aurait pas fait, mais il a été une colère furieuse. Et si je crois que si les laquais, les valets n'auraient pas servi le vin dans le beau salon, je crois qu'il était prêt à aller leur casser la figure, quoi. Et les belles dames anglaises avec leurs dentelles se sont éloignées de Tolstoï et du guitariste. Donc voilà. Donc je voudrais quand même faire entendre l'ambiance de ce beau guitariste, de ce guitariste qui jouait pour ses riches, là, pour gagner deux sous. Alors, j'ai trouvé un extrait de guitare, c'est certainement pas ça qu'il jouait, mais c'est une guitare, c'est un auteur du début 19e, je ne me trompe pas, bien début 19e, c'est Giuliani, un Italien, et un interprète qui va vous jouer un morceau ou deux de ce beau guitariste. Donc après le Schweizerhof, Tolstoï dit dans son journal « De quoi ai-je envie d'un désir si passionné? Je ne sais pas, mais pas des biens de ce monde. Et ne pas croire en l'immortalité de l'âme, alors qu'on sent dans l'âme une si immense grandeur. Je regarde par la fenêtre, c'est noir. c'est déchiré et lumineux. On voudrait mourir. Mon Dieu, que suis-je? Où vais-je? Et où suis-je? Voilà les réflexions de Tolstoï. Il dira le 13 juillet dans son journal, j'ai envie de le dire, c'est très beau je trouve, « Le nationalisme est le seul obstacle au développement de la liberté. Les politiciens devraient être des propagateurs hautement moraux des idées d'humanité universelle et des destructeurs de nationalisme. » Voilà. Donc, il va quitter cette Russie, il repasse par l'Allemagne, il joue aux cartes, il perd, Turgenev vient l'aider, enfin voilà, on fait... Il manque souvent le train, Tolstoï manque souvent le train, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Il prend le bateau, puis il arrive à Saint-Pétersbourg le 11 août 1857. Voilà, premier grand voyage. En arrivant en Russie, après ces 4-5 mois passés en Europe, Suisse et France, il trouve la Russie, bien évidemment, détestable, quoi. Il se dit, la ville, c'est horrible. Il sent la misère, il voit les pauvres, il dit, c'est vraiment lamentable. Mais quand il arrive à Yasnaya Polyana, là, vraiment, il dit, c'est un véritable délice. C'est là qu'on voit à quel point Tolstoï aime sa propriété et sa campagne. Voilà, donc il va passer maintenant deux bonnes années et demie avant de retourner une deuxième fois en Europe. Il va passer deux années et demie à travailler à la libération de ses serfs. Parce que, comme je l'ai dit, Alexandre II projette la libération du servage. Certains serfs sont au courant, mais bon, plus ou moins. Et donc, Tolstoï, comme on le sait, veut les émanciper. Et durant deux années, Tolstoï va offrir à ses paysans, serfs, l'émancipation, avec la possibilité de lui racheter 4 dessiatines et demie, soit près de 5 hectares de terre par foyer. Dans une demi-dessiatine gratuitement, puis le reste payé en 30 ans. Mais bon, les Moujiks, ils ont entendu vaguement parler qu'il y aurait une libération des terres. Ils se disent, mais Tolstoï est bien gentil, mais il veut nous vendre des terres. Ils ne sont pas d'accord. Bon, d'accord, ils ne sont pas d'accord. Alors, ils refusent. Alors donc, Tolstoï quand même... les libère quelque part, mais on n'est pas quand même dans la libération. Il les met à la redevance qui s'appelle l'obroc. Ça veut dire qu'ils devront payer, ça c'est encore le système à l'époque, ils devront payer une taxe au seigneur, à Tolstoï, enfin aux autres propriétaires, pour pouvoir être libres, semi-libres. Oui, mais ils sont libres, mais ça veut dire qu'ils ne viennent plus travailler chez lui. Tolstoï, il veut bien libérer ses serfs, mais il ne veut plus travailler. Alors, comment faire? Donc, il faut embaucher des journaliers. Il commence à embaucher des journaliers. Et là, ça devient très compliqué. On est dans cette phase de transition. Libérer les serfs, oui, comme on le sait, ce n'est pas passé. Ce n'est pas si facile de, du jour au lendemain, dire à tous les serfs, vous êtes libres, quoi. Donc, il les dispense quand même de la corvée seigneuriale et puis Tolstoï va cultiver ses terres par lui-même avec des journaliers. Et il leur offre même une année de redevance pour quand même leur donner de l'espoir. Voilà, donc Tolstoï est toujours occupé de cette fameuse libération des serfs. Et puis, ce mot émancipateur, à l'époque, est égal... dangereux révolutionnaire. Et oui, parce que émanciper les serfs avant la révolution, avant l'abolition du servage, c'est un révolutionnaire.
Mais Alexandre II était quand même d'accord lui aussi.
Oui, Alexandre II était le bon tsar. Il commençait à sentir qu'il fallait, oui, il y avait une pression, mais bien plus tolérant que Nicolas Ier, comme on l'a vu. Hein. Oui, oui, il était d'accord, il fallait que ça s'organise. Mais bon, Tolstoï est quand même inquiété. Alors il dira, lui, Tolstoï, j'aime bien ce qu'il dit, il dira agir sur cette classe de la population simple, réceptive et innocente, la délivrer de la pauvreté, lui procurer le bien-être social et l'éducation dont, par bonheur, je bénéficie, corriger ses vices nés de l'ignorance et la superstition, développer son sens moral et l'amener à aimer ce qui est bon, quel avenir radieux. Je consacrerai tout mon bien et toutes mes forces à la révélation, à la réalisation de ce programme, qu'on me le permette ou non, même si je me retrouve seul, je créerai une société secrète pour l'instruction du peuple. Voilà, donc Tolstoï va ouvrir une deuxième fois son école, de l'automne 59 au printemps 1860, il continue à faire malgré tout l'école à ses serfs. Voilà, donc il commence à être fatigué un peu de toute cette lutte. Il travaille à la libération de ses serfs, ça ne va pas comme il veut. L'école, ça ne va pas toujours comme il veut. Et il se dit, là, je ne suis pas au point, il faut que je retourne faire un deuxième voyage en Europe. Après avoir passé 2 années et demie. Alors, il a toujours son journal qu'il tient. Alors, il est là toujours. Il dit, dans le journal du 1er février 1860, « J'ai machinalement pensé à la prière, mais prier qui ?» qu'il dit. « Qu'est-ce qu'un Dieu qu'on se représente si clairement qu'on peut le prier ? Communiquer avec lui ? Si je le représente ainsi, il perd pour moi toute grandeur. Un Dieu qu'on peut solliciter et au service duquel on peut se mettre, c'est l'expression de la faiblesse et de l'intelligence. » S'il est Dieu, c'est en ceci que je ne peux pas me représenter son être. Aussi bien n'est-il pas un être, il est loi et force. Que cette page demeure en monument de la conviction que j'ai de la force de l'intelligence. Voilà, c'est pour dire que Tolstoï s'intéresse à plein de domaines à la fois. À l'instruction du peuple, à libérer le peuple et à une réflexion sur la vie profonde.
Alors l'hiver 1860 se termine et Léon projette donc de partir de nouveau vers l'Europe. Et là, il va s'orienter, il va essayer de découvrir un peu les méthodes pédagogiques qu'on utilise dans cette Europe. Et il aime bien celles qu'on utilise en Allemagne, contrairement à celles de l'Angleterre ou de l'Amérique ou de la France.
C'est ça, voilà. Donc il dit que l'Allemagne a élaboré une pédagogie issue de la philosophie, l'Angleterre, l'Amérique, la France l'ont limitée. Il sera très intéressé. Donc voilà, dans ce deuxième grand voyage qui va durer 8-9 mois, c'est pas rien là, hein, il laisse sa ferme à ses intendants, à des responsables, la famille qui s'occupe de ça aussi. Et là, il s'en va vraiment avec l'idée de s'intéresser aux idées pédagogiques pour instruire le peuple. Il sent bien que c'est fondamental l'instruction du peuple et sortir du noir, quoi, de l'ignorance. Et donc... Et cette fois-ci, il veut vraiment se donner tous les moyens. Et en juillet 1860, Tolstoï part pour ce deuxième grand voyage. Et donc, il va rencontrer tout de suite ce grand anarchiste révolutionnaire, Alexandre Herzen, qui est en exil lui aussi, et qui est connu comme le père du socialisme russe. Ils ont ensemble de longues discussions sur l'état politique de leur pays, sur la pédagogie. Mais voilà, donc en Allemagne, ceux qui s'intéressent à l'éducation, l'Allemagne, il y a des gens comme Petzalozzi, Froebel, qui rencontrent en Allemagne, enfin, ils ne rencontrent pas Froebel, parce qu'il est mort, mais son neveu, qui ont des écoles où l'éducation des enfants est axée sur le fait qu'ils soient acteurs de leur vie. Et même à Weimar, ils visitent des jardins d'enfants où les enfants s'exercent à des tâches manuelles liées à l'école, à la vie. Donc on voit comment Tolstoï veut prendre vraiment... se donner tous les moyens quand il va revenir de ce deuxième grand voyage, d'ouvrir une école encore bien plus ancrée dans la vie et sérieuse, quoi. Donc, il rencontre des responsables de fermes communautaires en Allemagne. Il se rend compte que les paysans en Allemagne travaillent deux fois moins qu'en Russie et sont payés bien plus cher. Alors là, il se dit, là, les idées, ils sont vraiment bien plus en avance que nous, quoi. Et puis, à Bruxelles, alors là, il y a ce grand Proudhon, hein, que révolutionnaire journaliste, économiste, philosophe et sociologue français, Proudhon, qui est en exil à Bruxelles, que Tolstoï va rencontrer et dont il va s'intéresser énormément. Parce que Proudhon fut le premier à se qualifier d'anarchiste. Et Proudhon, on le verra plus tard aussi, c'est lui qui a rendu cette phrase très célèbre, « La propriété, c'est le vol ». Là, c'est quand même assez révolutionnaire de dire ça en France, en plein milieu du 19e. Tolstoï aura de grands échanges avec Proudhon sur les idées « propriété, c'est un vol », qui est une phrase d'ailleurs, beaucoup disent que c'est de Proudhon, mais elle n'est pas de Proudhon. Elle est d'un révolutionnaire écrivain politique du 18e, Brissot de Varville. Enfin bref. Donc voilà. Et ils arrivent en Allemagne. Ce que je voulais dire, il arrive avec ses deux frères. Son frère Nicolas est très malade. Hein. Il est très très mal. Et avec sa sœur, il n'a qu'une sœur qui a des enfants, qui est séparée de son premier mari. Ils arrivent en Allemagne pour aller à Hyères, en France, faire soigner. Et donc ils arrivent à Hyères. Bon, j'ai pas la suite chronologique des choses, mais il va visiter. Il faut pas que j'oublie de vous dire qu'il a quand même visité l'Angleterre, où il a été écouter des conférences de Dickens. En Angleterre, il a été en Italie, Tolstoï, ça, le grand voyage, quoi. Il retourne à Paris. Et donc, en France aussi, il visite l'école d'agronomie de Grignon, école d'agriculture, parce que là, il est dans le but de gérer encore mieux ses domaines. Et il est intéressé. Non seulement il continue à écrire, mais il s'intéresse à la philosophie, il s'intéresse à l'agronomie, à l'éducation. Donc il est très très content d'avoir rapporté des livres de France et d'Allemagne d'agriculture. Et Grignon l'a vraiment beaucoup intéressé. Quand il... de passage, donc il visite des écoles en Angleterre, en Allemagne, et il en visite une dizaine à Marseille. Et à Marseille, là, il est très déçu de l'enseignement à Marseille, qui s'attache à un apprentissage basé sur le par cœur et la répétition, alors que les courants de pensée qu'il avait rencontrés en Allemagne s'attachent davantage à rendre des élèves capables de raisonner par eux-mêmes. Et le grand événement très douloureux qui se passe à Hyères, ils sont tous arrivés en famille, ses deux frères, sa sœur avec ses enfants... son frère qui est venu pour se faire soigner, qui est vraiment très malade, va mourir le 20 septembre 1860. Son frère Nicolas, comme on l'a dit, hein, avec qui il a été très proche, il est parti au Caucase avec lui, avec qui il a joué petit, la baguette verte, là, comme on l'a dit. Et donc Tolstoï, là, c'est quand même très dur pour lui. Il dira « Rien n'aura été aussi dur à vivre dans ma vie que la mort de Nicolas. Rien. » Durant les funérailles, Tolstoï a même l'idée d'écrire sur un Christ matériel, pratique, pour une religion, il a déjà dit ça au Caucase, hein, quelque chose de très pratique, qui est applicable tout de suite, quoi. Voilà, donc il va revenir, évidemment, sur le chemin du retour. Je passe assez vite parce qu'il faut qu'on termine les deux voyages dans cette émission et le temps passe malheureusement très très vite. Mais on a dit l'essentiel dans ce deuxième grand voyage. Mais il ne faut pas oublier qu'il écrit une nouvelle. Il a fait Lucerne déjà, qui va avoir du mal à être édité, comme je vous l'ai dit, dès la fin. Mais il l'a écrit très vite, en 2 mois, Lucerne. Et elle est très difficile à éditer, tellement elle est révolutionnaire. Une critique féroce qu'il fait contre tous les riches qui ne veulent pas partager avec le pauvre guitariste pauvre. Mais donc, il a une nouvelle en chantier, mais qui dure comme 2-3 ans, qui s'appelle Albert, ou l'homme déchu, ou le musicien décadent. Et cette nouvelle, j'en parle parce qu'il l'a écrit pendant surtout ce deuxième grand voyage. Et Albert, alors c'est quoi ? Tolstoï est un musicien, comme vous le savez, aime beaucoup la musique, aime l'art. Et donc, il avait déjà été sensible avec ce guitariste. Et Albert, c'est l'histoire dans un lieu de très chic de Saint-Pétersbourg. Il y a toute la bonne société là qui est en train de tromper son ennui, quoi. Tous les grands riches, les aristocrates sont là. Et puis, il y a un vagabond qui rentre là-dedans. Et c'est la nouvelle qu'il a arrangée, mais qui est à partir de quelque chose de vrai. Un vagabond qui rentre, qui sent l'alcool, la crasse, et qui fait irruption au milieu des danseurs, et il s'empare du violon.
Mais il aime bien ça, je crois, les gens qui arrivent à rentrer chez ces bourgeois et à mettre un peu la panique.
Voilà, tu as tout compris. Tolstoï aime lui-même, est quand même très provocateur, et il se saisit dès qu'il y a une occasion pour faire irruption dans ce monde bien pensant, de les secouer un peu, quoi. Ça sera toute la vie de Tolstoï, ça sera ainsi, quoi. Et donc, le violoniste qui a bu, qui titube, il prend le violon, et dès les... Alors, tout le monde rigole, tout le monde se dit, mais bon, on le met pas dehors, quand même, hein. Et tout le monde rigole, mais alors, dès les premières notes du violon, le pianiste, il se soumet pour accompagner ce violon. Il se révèle être un musicien de génie, quoi. Et les gens qui étaient là, lassés, les jeunes filles, les beaux jeunes hommes, il y en avait un qui dormait sur un fauteuil moitié sous, ils sont complètement transportés par cette force du violon. Ils sont fascinés. Et un jeune homme qui décide de l'aider pour renouer avec sa carrière, mais en vain. Et alors, voilà, il est tellement déchiré par un amour impossible. Cet artiste extravagant est déjà ailleurs. Donc, Tolstoï s'est inspiré de la figure d'un pianiste allemand qu'il avait rencontré dans cette situation. Et si tu veux, dans cette nouvelle, Manu, je m'adresse quand même aux auditeurs, mais j'ai Manu en face de moi, donc je m'adresse à lui aussi. Et aussi à vous, chers auditeurs. Tolstoï, dans cette nouvelle Albert, brosse un étonnant portrait d'artiste marginal et il évoque la puissance de sa musique qui dépasse celle des mots. Et là, nous allons entendre une danse de Slave de Dvorak, jouée par Marianik Nicolas, l'opus 72, numéro 2. Thank you. Tolstoï.
Anton Dvorak.
Anton Dvorak, voilà. C'est un peu. C'est pas vraiment dans l'époque où ce violoniste aurait joué, mais je trouve ce passage tellement beau. Il illustre tellement la mélancolie des gens qui sont là et qui sont touchés par ce beau violon, quoi. Voilà. Donc Tolstoï, il dira. Au niveau de la musique, c'est un, comme je vous l'ai dit, un amoureux de la musique. Et il dira toute sa vie, Tolstoï, mais particulièrement avant de mourir, il dira « Si notre civilisation s'en allait à tous les diables, je ne la regretterais pas, mais j'aurais du regret pour la musique », dira-t-il. Alors, quand il revient en Russie, parce qu'on n'est pas revenu encore en Russie, ce deuxième grand voyage, il repasse par l'Allemagne et il remplit là. Des malles de livres sur la pédagogie et l'agriculture. Il convainc sans peine un jeune enseignant allemand de venir avec lui pour ouvrir, pour la troisième fois, sérieusement, pour ouvrir son école à Yasnaya Polyana. Donc on voit que l'intérêt de Tolstoï de mieux gérer ses domaines en profitant des dernières expériences européennes dont il vient de prendre connaissance va de pair aussi, bien sûr, avec l'éducation de ses moujiks. Voilà, il était donc encore en Europe, le 19 février, ça il ne faut pas oublier de le dire, il était en Europe quand 19 février 1861 est publié le manifeste du tsar, Alexandre II, qui libère officiellement les paysans du servage.
Ça y est, c'est parti.
C'est parti là, c'est pas rien, c'est parti, ça ne va pas être forcément bien fait, ça va pas être évident. Donc un décret évidemment que Tolstoï attendait depuis très longtemps. Même s'il trouve que c'est un peu précipité, mais sa décision de retourner en Russie afin de participer au mieux et à sa façon à la libération de ses serfs actifs, quoi. Donc, il revient à Yasnaya Polyana fin avril 1861. Il arrive... Bon, il est passé, bien évidemment, à Saint-Pétersbourg. Il ne rentre pas comme ça. Il est arrivé par Saint-Pétersbourg, Moscou. Mais il arrive qu'à un cas, en avril 1861, à Yasnaya Polyana. Et là, tout de suite, quand il arrive... Oui, il ne faut pas oublier de dire qu'il continue, malgré tout ça, à écrire les Cosaques. Je le redis parce que c'est important de le redire. Tolstoï fait plusieurs choses à la fois, mène plusieurs choses de front. Les Cosaques l'intéressent toujours beaucoup. Et donc, quand il arrive là-bas, il est quand même toujours l'aristocrate. Hein. Et les responsables locaux de la région... tout de suite lui demande Lev Nikolaevitch, ne voulez-vous pas être arbitre de paix, conciliateur des litiges, parce que ça c'est pas comme ça, hein, c'est pas évident. Si je devais vous décrire la répartition des terres, et il faudrait une émission entière là pour savoir comment ça se passe. Même moi je suis peut-être pas trop sûr d'avoir tout compris, hein. Donc il est tout de suite employé, si on peut dire, responsable de la répartition des terres, arbitre de paix, donc, et très vite, on se rend compte que Tolstoï désavantage est toujours du côté des paysans, quoi, hein, et il va être complètement mis dehors de cette commission au bout d'un an, quoi. Évidemment, il est lui qui attendait que ça pour libérer ses paysans, mais il y en a qui ne sont pas d'accord. Et là, tout de suite, dès qu'il arrive aussi, en marge de tout cela, en parallèle, il ouvre son école. Immédiatement, il arrive, il ouvre son école. Mais je pense que là, on ne va pas développer l'ouverture de son école maintenant, on va en reparler un peu après. On va rester dans une petite histoire que j'aime beaucoup aussi, et qu'il faut savoir aussi quand même, c'est qu'en juillet 1862, pour aller se reposer, parce qu'il est quelquefois malade, il s'en va au sud de la Russie, à Samara, une région qu'il aime beaucoup, où plus tard il achètera une propriété là-bas. Et je dis ça, il part avec son serviteur et des cochers, parce qu'ils vont parler Samara, si vous regardez sur la carte, c'est sur la Volga, bien au sud, hein. Ils s'en vont là, ils retournent, ils connaissent cette région, il est passé quand il est allé au Caucase. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand il est parti ces deux mois en juillet, parti faire une cure de lait de jument, il s'en allait à cette époque-là, faire des cures de lait de jument, fermenter le koumis.
Koumis.
Koumis, hein. Et il dort, Tolstoï adore ça, il dort... Alors moi, c'est incroyable, il écrit, il s'occupe des serres, il s'occupe de la répartition des terres, mais il s'en va quand même faire sa cure de lait de jument qu'il fait régulièrement pour... Et puis, il aime beaucoup habiter avec les nomades sous la tente, quoi. Il aime beaucoup ça, recherche toujours la vie primitive, la vie vraie, Tolstoï, hein. Et donc... quand il revient, alors ce que je voulais dire de cette histoire, c'est quand il revient de cette escapade de 2 mois, 1 mois et demi, il se rend compte que son domaine a été perquisitionné de toutes parts. Pourquoi son domaine a été perquisitionné? Lui, Tolstoï, le grand aristocrate connu de tout le tsar et de toutes les hautes sphères sociales, là, il ne le prend pas comme ça, quoi. Sa maison a été fouillée de fond en comble. Ils ont même cherché la police politique, la police spéciale secrète. Ils ont été fouillés les temps parce qu'on pensait qu'il avait une imprimerie clandestine. Parce qu'on est en 1862 déjà. Hein. Et surtout, pourquoi il est louche, et bien qu'il a reçu l'avis favorable du gouvernement d'ouvrir son école. Il a reçu cet avis un peu difficilement, il l'a reçu, mais il fait son école avec des étudiants qu'il a fait venir de Saint-Pétersbourg, qui sont plus ou moins légaux, parce que l'université où ses étudiants travaillaient a été fermée pour cause de troubles. Alors évidemment, les étudiants qui sont là, ils sont là plus ou moins légalement, mais Tolstoï les embauche pour l'école. Donc il y a ça, il avait reçu un fameux décembriste, comme on l'a dit, les décembristes, les révolutionnaires de 1825. Donc tout ça, il est surveillé. Et puis, il est trop conciliant avec la répartition des terres. Donc, il y a eu un indicateur qui a dit, qui a dénoncé Tolstoï comme quelqu'un qui... Et puis, je crois que les autres propriétaires terriens n'en avaient marre aussi, qui donnent trop d'avantages. Alors donc là, il a écrit, c'est là que, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il a dit, mais alors cette perquisition déshonore tout le crédit que j'avais aux yeux des paysans, que lui veut aider. Il écrit au tsar, hein, tout de suite, hein. Tolstoï sait écrire, bien sûr, et il a quand même gain de cause, et on lui dit que dorénavant, il ne sera plus inquiété de cette perquisition. Il reçoit même une lettre d'excuse. Voilà, donc on arrive au terme de l'émission. On peut dire que Tolstoï, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Tolstoï n'arrête pas d'essayer de réveiller les hommes, de leur montrer, de leur faire sentir la vie dans toute son ampleur, dans la profondeur de l'existence, dit Tolstoï, d'être contacté, pénétré. Tolstoï, de toute sa vie, à la libération de l'homme, pas que de ses serfs, pour dessiller les yeux. Il sent tellement vibrer un volcan créateur au fond de son être, tout cet acte qu'il a d'aimer, qui dit de l'humanité, le peuple, la vie, son domaine, donc il veut absolument rendre libre l'homme. Je dois citer les livres qui ont servi à cette émission.
Ah, si tu veux bien, oui. Pourquoi pas?
Alors, je me suis quand même aidé pour cette émission de la nouvelle Lucerne. Pas facile à trouver, ça. Albert, non plus, mais ce sont des nouvelles, petites nouvelles merveilleuses. Et surtout, des carnets et journaux des années 1847-1889, qu'on trouve on trouve facilement dans la Pléiade, les journaux et carnets intimes de Tolstoï.
Ben voilà, on a fait un voyage, deux voyages en Europe, là, et suite à ça, il découvre en rentrant que Alexandre II a bien libéré, a fait ce décret pour libérer les serfs. Donc, dans la prochaine émission, on reviendra sur l'école, donc la fameuse école que Léon Tolstoï a ouvert chez lui. On reviendra aussi sur cette libération des serfs, pas facile, mais qui va mettre en place et qui va bien démarrer dans son territoire. Et on parlera d'un gros truc alors de Léon Tolstoï, c'est le fameux Guerre et Paix. C'est ça.
C'est ça, Manu. Bon programme pour la prochaine.
Voilà, pour la prochaine émission, donc le mois prochain, le programme va être serré. Mais on remercie Claude Ferré pour cette quatrième émission. On vous donne rendez-vous dans un mois et merci à vous, auditeurs, d'écouter cette passionnante, comment on va dire, épopée.
Épopée,
allez.
On peut dire cela, oui.
Ouais.
Merci, au revoir.
Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.